Le commentaire de Serge Paquin.
Monsieur Paquin, comment ça va, Serge?
Ça va très bien, Martin.
Ouais, encore une grosse semaine dans le monde politique. Ce sera un gros printemps, il faut le dire.
Oui, c'est parti sur les chapeaux de roue avec le projet sur la laïcité, notamment.
Oui, on va faire un saut fédéral tout de suite, parce que là, ça continue de chauffer entre le premier ministre Justin Trudeau et l'ex-ministre Ribble.
Ben, on apprenait hier, je crois, que lors, à l'occasion de la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême suite au retrait de la chef de la Cour suprême, Madame Raybould aurait voulu nommer un juge du Manitoba, juge royal. Elle voulait le nommer à la Cour suprême, non seulement ça, mais elle voulait le nommer directement comme chef de la Cour suprême, ce qui n'est jamais arrivé dans la Constitution depuis que le Canada existe, sauf une fois où le premier ministre avait nommé un ministre de la Justice chef de la Cour suprême. Et ça allait à l'encontre de l'alternance entre un juge en chef anglophone et francophone. Et puis en plus, c'est un juge unilingue et de surcroît, un juge très conservateur, pas très chaud avec les principes garantis dans la Charte des droits et libertés de la personne. Mais évidemment...
Et ça avait fait tout un froid entre elle et...
Monsieur Trudeau a imposé son choix comme il se devait de le faire.
Oui.
Mais on voit là des réminiscences de le fameux litige entre les deux pour le dossier d'SNC. Lavalin, parce que là, Mme Raybould réclame avec d'autres une enquête sur le fait que comment ça que ces discussions-là sur la nomination d'un juge à la Cour suprême sont devenues publiques.
Alors là, c'est comme le reste, là. Faut qu'elle s'attende à voir popper à gauche et à droite différentes histoires qui la lient à ce conflit avec Justin Trudeau.
Effectivement. Puis le fait de demander qu'il y ait une enquête là-dessus, ça amène encore une fois de l'eau au moulin des partis de l'opposition. Moi, je pense que Mme Raybould, et c'est vrai pour Mme Philpott, compte tenu qu'elles ont toutes deux annoncé qu'elles voulaient être de nouveau candidates pour le Parti libéral, je pense qu'elles se disent, écoutez, nous, on ne sera plus jamais ministre, de toute façon, avec ce qui s'est passé, on peut le comprendre.
Oui.
Alors, nous, on va simplement être réélus comme députés, puis on s'en fout que le gouvernement libéral soit réélu. Nous, on va sauver nos sièges de députés. En fait, c'est ma lecture.
C'est particulier, parce qu'on sait très bien que, notamment, au fédéral, souvent, la bannière joue un rôle plus important même que le nom du candidat ou de la candidate pour l'électeur.
Oui, probablement ce qui explique le fait qu'elles veulent demeurer candidates pour le Parti libéral.
Ben oui.
Effectivement.
Ça fait le pain puis le beurre.
Mais M. Trudeau vit avec sa décision de ne pas avoir voulu exclure pendant qu'il en était temps. Mme Raybould, elle continue à avoir des problèmes.
Restons au fédéral, puis moi, je catégorise ça comme étant l'une des jokes de la semaine. Alors que le fédéral va contester en cour d'appel le droit à l'autodétermination du Québec. Est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau ne se tire pas dans le pied par rapport au Québec en vue des prochaines élections?
S'il y a une question qui a fait l'unanimité depuis très longtemps, on se souvient notamment que M. Bourassa, suite à l'échec des accords du Lac-Mitch, avait déclaré quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, pour aujourd'hui et pour toujours, le Québec est une société libre d'assumer ses choix. Puis on a tenu déjà deux référendums, fait que de facto, le droit à l'autodétermination du Québec, on l'a exercé. Là, il y avait une loi 99 qui a été contestée devant les tribunaux, puis la Cour supérieure a débouté le gouvernement fédéral là-dessus, en disant que la loi du Québec est valide. Puis là, on est devant la Cour d'appel, puis là, effectivement, dans le mémoire du gouvernement fédéral, on conteste le droit à l'autodétermination du Québec et on dit, ça devrait être assujetti à un amendement constitutionnel. Donc, l'accord de cette province qui constitue au moins 50% de la population canadienne, puis un droit de veto au fédéral.
Puis de demander la permission de certaines provinces de l'Ouest, parce que ça va prendre ça aussi pour que nous, on puisse, exemple, un jour, je sais pas, ça va peut-être pas arriver, comme ça peut peut-être arriver,
d'ailleurs,
que le Québec dise « oui, on veut devenir un État à part entière ».
Je pense qu'on n'a pas à se fermer de porte pour l'avenir.
Mais là, on a-tu besoin de demander aux voisins?
D'ailleurs, ce matin, à l'Assemblée nationale, il y a eu une résolution adoptée de façon unanime où on a réitéré le droit à l'autodétermination du Québec.
Mais en même temps, Serge, je reprends ma question de départ. Justin Trudeau vient-il pas mettre une petite pleure de banane à ses propres candidats, candidates pour les élections, parce que c'est sûr qu'ils vont se faire challenger là-dessus au Québec.
Ouais, je pense que le Bloc québécois, notamment,
ben oui,
va se faire un plaisir de,
ben oui,
de rappeler ce qu'il y a dans la mémoire du gouvernement fédéral à la Cour d'appel.
Tu soulèves la question, le premier ministre du Québec devrait-il faire un pèlerinage à Pittsburgh pour plaider la cause des travailleurs d'abbaye pour qu'on en finisse avec ce fameux conflit de travail?
Conflit qui perdure dans le temps, plus d'une année maintenant.
Ben oui.
Écoutez, c'est sûr que c'est très désolant pour l'économie de la région, désolant pour ces travailleurs-là, mais en même temps, on le sait, il y a un rapport de force qui s'exerce, puis là on parle d'une entreprise privée, un rapport de force qui s'exerce entre la partie patronale et la partie syndicale. Puis là, on demande au premier ministre du Québec d'aller à Pittsburgh, se rendre au siège social de l'entreprise pour aller défendre la cause des travailleurs. Écoute, je trouve ça ridicule. Je trouve ça irresponsable de la part du président d'une centrale syndicale comme la FTQ, Daniel Boyer, de faire de telles demandes au premier ministre du Québec. Là, je pense qu'il faut être plus sérieux de ça.
Ben. Et surtout, qu'eux ne veulent pas accorder de concessions dans la négociation. À preuve, ils ont rejeté une offre déposé par la partie patronale pour justement mettre un terme à ce conflit.
Mais là, ils ont déposé une contre-offre. Qu'est-ce qui en adviendra? Ben, en tout cas, souhaitons que ça se règle le plus tôt possible.
Mais toi, tu ne penses pas que Legault va prendre son baluchon puis aller
je pense que ce serait
Sidney Crosby avec les Pingouins à Pittsburgh?
Ouais, non? Ce serait un bien curieux précédent.
Oui. Aujourd'hui, dépôt. Je le répète d'ailleurs depuis quelques temps. Je commence à être tanné en soda de parler de laïcité.
Prépare-toi, on en a pour quelques mois.
Je le sais. Puis là, avec le projet de loi déposé, puis déjà, il y a des contestations à venir devant le tribunal. Tu vois ça comment?
Oui, en fait, il y en a même eu une avant le dépôt du projet de loi, à ma grande surprise. Le syndicat des enseignants qui contestait la possibilité que le gouvernement dénombre le nombre de personnes à son emploi qui porteraient des signes religieux. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est très prématuré.
Mm-hmm.
Et c'est tellement prématuré que le gouvernement le rejoint un petit tour, si on veut, parce que dans le projet de loi, on accorde des droits acquis, mais c'est uniquement en fonction du contrat de travail. Donc, ce qui fait foi du droit acquis, c'est la date d'embauche. Alors, on n'a pas à savoir si c'est monsieur,
avant
madame,
ou après le 28 mars.
Exactement.
C'est avant le 28 mars, si tu portais des signes religieux, tu vas pouvoir continuer.
Oui.
Si tu es embauché à partir de maintenant, tu ne pourras pas.
Et si tu n'en portais pas, tu étais à l'emploi le 28 mars ou avant, là. Si tu étais à l'emploi et tu ne portais pas de signe religieux, si dans l'avenir tu décides d'en porter, tu vas avoir le droit parce que tu étais
à l'emploi avant. La fonction publique.
Mais ça enlève l'obligation de dénombrer, qui était la base du recours du syndicat des enseignants.
Ben oui.
Fait qu'ils ont jeté l'argent de leurs membres par la fenêtre. Ceci dit, il y a d'autres surprises. Hein? On n'attendait pas le fait qu'il allait avoir un amendement à la Charte des droits et libertés du Québec. Alors, on procède comme ça. On affirme le principe de laïcité de l'État et on en fait même une règle d'interprétation de sorte que les tribunaux qui auront à décider de quoi qui relève de la Charte, ils devront tenir compte du fait que le Québec est un État laïque. Ça fait partie des principes qu'on affirme dans la Charte.
Non, on prépare déjà une défense. Assez contestation, dans le fond.
On a recours à la clause dérogatoire.
Pour
les deux chartes, à ma compréhension, là, c'est la Charte des droits et libertés du Canada et même celle du Québec, même si on a ajouté le principe de
Serge, les gens entendent ça, la clause dérogatoire.
Ouais.
Comment on peut simplifier, vulgariser ce que c'est exactement?
À l'intérieur même des chartes, puis on se souvient là, quand ça a été M. Trudeau père avait fait adopter la Charte des droits et libertés du Canada pour obtenir l'accord des provinces, sauf le Québec, qui n'a jamais signé, comme on le sait. Pour obtenir l'accord des provinces, il a dû concéder cette possibilité-là, qu'on retrouve dans d'autres pays d'ailleurs, la possibilité pour un gouvernement de dire, écoutez, moi je vais restreindre un droit et liberté qui est garanti par la Charte, comme la liberté de religion, par exemple. Puis je le fais, mais je dois renouveler cette dérogation-là à chaque 5 ans. Alors, on peut adopter un projet de loi qui va à l'encontre d'un droit à liberté garanti par la Charte quand on utilise la clause dérogatoire. Puis le Québec l'a fait à plus de 100 fois.
Oui, OK, je comprends.
On l'a fait à plus de 100 fois dans le passé.
Ouais.
Autre nouveauté, c'est on a ajouté des certaines fonctions, mais je pense que c'est cohérent.
Dans la liste de gens qui ne pourront pas porter de signes religieux.
Voilà. Là, on parle maintenant des régisseurs, par exemple, la régie du logement, mais il y a d'autres régies au Québec.
Du bâtiment,
les arbitres, les commissaires, commission municipale du Québec. Okay. Par exemple, donc, les gens qui sont en autorité, qui exercent un pouvoir
décisionnel.
Mais ça, on ne l'attendait pas, mais c'est...
Puis, moi, la grande question là-dessus, qui va jouer à la police?
Oui, bien, ça dépend.
T'as une loi, t'as un règlement, tu veux le faire appliquer, qui va jouer à la police?
Ce que le projet de loi prévoit, c'est que la plus haute autorité d'une organisation, c'est elle qui a la charge.
Donc, le directeur ou la directrice d'école, mettons.
Ou la commission scolaire, qui est l'employeur.
Je vois tellement Gilles Normand, moi, se promener dans les écoles puis donner des étiquettes.
Oui, mais c'est un pouvoir qui se délègue.
Mais
la responsabilité appartiendra.
Je trouve ça un peu loufoque. À ce titre-là, parce que c'est un règlement, c'est une loi, mais qui va la faire vraiment appliquer, puis du comment? Puis ça va aboutir comment aussi?
C'est comme d'autres lois. Hein? Ça part souvent d'une plainte. Alors, s'il y a plainte, il y a quelqu'un qui est responsable d'enquêter.
Oui.
Et l'autre nouvelle, c'est le fait qu'on intègre la question des services gouvernementaux qui doivent être donnés à visage découvert et reçus à visage découvert dans le cas où c'est nécessaire que la personne s'identifie ou pour des questions de sécurité.
Exemple, la photo à la Société de l'assurance automobile du Québec.
Oui, nécessairement. Je pense. Et souviens, il y avait eu le projet de loi par le Parti libéral qui finalement a été mis sur la même question, qui avait été mis en suspens par le tribunal, où là, c'était pas nécessairement lié. On disait on doit recevoir les services de l'État à visage découvert. Donc, on disait, mais si tu prends l'autobus à Montréal, les gens vont devoir se découvrir. Alors la nuance qu'on amène, c'est que si c'est nécessaire pour des fins d'identification. Donc, si t'as la passe avec ta photo dessus, le chauffeur de bus devra s'assurer que c'est la bonne personne, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, on a intégré ça dans le même projet de loi. Et l'autre, pas nouveauté, mais peut-être un peu... On s'attendait à ce qu'il y ait une discussion sur le crucifix à l'Assemblée nationale.
Oui.
Là, on a même voté ce matin, de façon unanime, pour le déplacer dans un corridor de l'Assemblée nationale.
Un garde-robe.
Je pense que ça va être plus officiel.
Oui.
Un petit peu plus officiel.
On termine ça avec le Brexit. Quelle affaire!
Oui, écoute...
Pour l'Angleterre,
c'est incroyable. C'est une autre affaire qui n'en finit plus.
Theresa May s'enlise avec ça.
C'est incroyable. Mme May a même mis sur la table...
Son siège?
Son siège, elle a dit, écoutez, si vous adoptez l'accord que j'ai négocié avec la communauté européenne, moi, je suis prête à démissionner, à m'en aller. C'est assez rare qu'on voit ça.
Ben oui.
Et hier, il y a même eu, on a fait des votes indicatifs. Moi, j'ai jamais vu ça dans un Parlement, mais peut-être que ça existe ailleurs, sur 8 options. 8 options, dont celle de la possibilité de tenir un second référendum. Eh bien, Martin, les 8 options... ont pas recueilli une majorité de voix. Fait qu'il n'y a rien qui a passé.
C'est incroyable.
Puis là, il y a quelqu'un, ça rend ça d'autant plus actuel. Je me souviens plus qui, mais quelqu'un de la communauté européenne qui a dit, écoutez, on comprend très bien ce que les Anglais ne veulent pas, mais à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils nous disent ce qu'ils veulent.
C'est bien dit et c'est sage.
Voilà. La question demeure entière.
En tout cas, chose certaine, devrait se la poser puis surtout trouver la réponse.
Ouais.
Hein? Serge Paquin, merci.
Merci, Martin.
Bonne semaine.
Au revoir.